Matthieu 12, et on va lire les versets 31 à 37. La section à laquelle nous sommes rendus, puis on va faire les choses un petit peu différentes ce soir. Vous savez qu'on fait une étude verset par verset, donc on peut dire verticale. On descend. OK? Mais là, on va y aller un peu plus horizontal. On va aller voir d'autres. On a déjà fait ça là, dans des séries, là. On y va un petit peu plus thématique, malgré qu'on reste dans notre texte, mais on va le développer à l'horizontale. Comprenez-vous ce que je vous dis ou j'ai tout mêlé, là? Non? Okay. C'est ça. Matthieu 12, 31 à 37. 31. Okidoki. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. On se rappelle ici, ces paroles sont dites par le Seigneur Jésus dans un contexte conflictuel. OK? En fait, Jésus, je pense que tout ce qui est en relation avec les pharisiens, c'était conflictuel. Ce n'est pas parce que lui cherchait à chicaner, c'est parce qu'il voulait leur dire la vérité puis il résistait. OK? En fait, Jésus était l'ultime prophète puis eux autres étaient l'aboutissement de ce qu'on voit toutes les relations. Regardez Ésaïe avec les gens autour de lui, Jérémie, tout ça, c'était pas des très bonnes relations. On peut dire que c'était pas mal conflictuel. Pourquoi? Parce qu'il amenait la vérité. Il disait au peuple de revenir à Dieu. Et il s'obstinait à ne pas vouloir. Ben, on a la même affaire ici. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le chapitre 12, les 13 premiers versets, le conflit est par rapport au sabbat. Et le sabbat, vous savez comment c'était important pour les Juifs. Pourquoi? On l'a vu, c'est parce que c'était une identité nationale. Les autres, maintenant, on a les musulmans qui ont, tu sais, puis les chrétiens, on a... on dit le vendredi c'est les musulmans, le samedi les juifs, puis nous autres le dimanche, une journée mise à part, puis tout ça. Mais à l'époque, il y avait juste les juifs qui avaient ça, le sabbat. C'était leur marque distinctive. C'est pour ça qu'il y en avait une telle fierté nationale, puis nous, on n'est pas comme le reste des païens, puis tout ça. Puis bon, c'était pas la seule chose, mais c'était une chose très importante. Et donc, Jésus, avec ce qu'il faisait, le sabbat, ça les dérangeait beaucoup. OK? On sait que c'est des choses qu'il avait rajoutées, que Jésus n'a jamais enfreint la loi de Dieu sur le sabbat, mais ça a amené le conflit. Puis le conflit s'est poursuivi en plus. Quand on continue dans le chapitre, on a vu ça la semaine dernière, le conflit est passé de la question sur le sabbat à la question d'autorité. Par quelle autorité tu fais ça? Les pharisiens disaient, par qui? Belzébul. OK? Dis-tu, ton autorité, c'est Satan. Et bon, Jésus leur a répondu, on a vu ça la semaine passée, pas mal clair, puis comme je vous dis, là, je veux dire, les gens qui essaient de s'opposer à Jésus puis le mettre dans un coin, ils finissaient eux autres dans le coin. Puis c'est ce qui est arrivé, on a vu ça la semaine dernière. Et donc, Jésus ici poursuit, OK, toute l'idée de répondre à cette opposition qu'il y avait de la part des pharisiens. Puis c'est la même lancée, si vous voulez, puis... Il donne ici son verdict par rapport à leurs paroles, OK? Parce qu'il parle justement parce que ces gens-là avaient dit des dures paroles à son égard, puis là, il dit, vous allez juger selon ça. Puis là, il parle de l'arbre et du fruit, puis à la fin, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les gens vont rendre compte de leurs paroles, OK? Toutes paroles vaines qu'ils ont proférées. Et ici, Jésus parle, oui, aux pharisiens, mais la foule était là aussi, OK? Et ça, c'est important à comprendre. Parce qu'ils étaient les leaders, les pharisiens, les leaders religieux, mais la foule avait décidé qui allait suivre, qui allait écouter, à qui allait ajouter foi à ce qu'ils entendaient, les pharisiens ou Jésus. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, dans le fond, il amène le concept, puis le verset le plus important, c'est verset 34, parce que, puis on va le considérer dans un instant, là, mais Les paroles révèlent l'état de notre cœur. OK? Si notre cœur est endurci, ça va sortir dans nos paroles. Ça va porter le fruit qui va avec. Si notre cœur est tendre envers Dieu, puis ça va aussi paraître dans nos paroles. Donc ici, Jésus parle de l'abondance du cœur. Et dans le fond, avec les versets qu'on a lus, on peut voir comme trois sections. Là. Dans les versets 31 à 32, on l'a vu la semaine passée, c'est le fameux péché sur le, contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne vais pas retourner sur les explications que j'ai déjà données la semaine dernière, mais je veux juste qu'on voit que c'est un avertissement solennel par rapport au rejet définitif du témoignage que le Saint-Esprit donne de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est impardonnable. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc, on l'a vu, de péché, de justice et de jugement. Puis quand on rejette ce témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage de Christ, hein? C'est ce que Jésus a dit. Mais si on rejette ça, cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu, dans le sens ici, c'est comme si le Saint-Esprit est l'ultime témoin, ben Jésus les avertit solennellement de rejeter ce témoignage-là. C'est sans retour. OK? Si on persiste dans cet état d'incrédulité. Dans le verset 33, Jésus il dit, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. C'est pas juste si de leur dire une vérité spirituelle. C'est un appel à revenir à leur bon sens. C'est un appel à la repentance, à se repentir de leur orgueil. Il dit, pensez-y, là, regardez l'arbre à son fruit, puis regardez ce que vous êtes en train de faire. Si vous persistez dans votre état d'incrédulité, d'endurcissement, ne voyez-vous pas que vous êtes des mauvais arbres qui portez du mauvais fruit? Et donc, il les avertit, il les appelle à revenir, puis dans les versets 34 à 37, la fin du passage qu'on considère ce soir, il prononce des paroles pour susciter l'introspection, la réflexion. Okay? Vous savez, hein, la Bible nous dit que Dieu veut qu'aucun périsse, mais qu'il arrive à la repentance, que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, n'est-ce pas? Ça nous dit aussi dans la parole que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Et donc, on le voit, puis on l'a vu aussi, c'était dans la semaine passée, Dieu usait de patience envers eux. Il voulait les amener. Quand les traites de race de vipères, là, je veux dire, c'est pas flatteur, mais c'est parce qu'il voulait qu'ils voient qu'ils étaient dans un état spirituel extrêmement grave, qu'ils devaient se voir tel qu'ils étaient. Parce que, rappelez-vous, c'est quoi qu'on a vu le grand problème de ces pharisiens? Ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas. Ils voyaient les pécheurs comme les rebelles, comme ceux qui ont un problème. Mais eux autres, ils voyaient qu'il n'y en avait pas de problème. Qu'eux autres, il y avait la bénédiction de Dieu, puis tout allait bien entre eux et Dieu. Puis Jésus veut les amener à voir que c'est faux. Et je pense que c'est ça, on l'a souligné la semaine passée. La bonté de Dieu, sa patience, pousse à la repentance. Et même pour les pires rebelles, je pense pas que c'est ceux qu'on voit, les junkies, puis ceux qui disent « je veux rien savoir », puis des tattoos, puis tout ça. Les pires rebelles, c'est ceux qui pensent qu'ils sont pas. Les pires rebelles, c'est ceux qui se voient pas rebelles. Pourquoi? Parce que ils se rendent pas compte. On est tous rebelles, OK? La nature humaine est rebelle. La nature humaine ne veut pas de Dieu. Donc, le pire rebelle, c'est pas celui qui a l'air, puis tout ça, parce que lui, souvent, il va être plus disposé à l'admettre. Le pire, c'est celui qui n'est pas disposé même à l'admettre. Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Quand on élève nos enfants et tout ça, c'est important de leur montrer leur état devant Dieu. Que même si c'est une bonne petite personne et tout ça, okay. De toute façon, ils s'en rendent compte. Qui obéit papa, maman, tout le temps, il n'y en a pas. Mais s'il y en a qui ont plus cette tendance à être le petit enfant parfait, la petite fille parfaite, le petit gars parfait, faut prier spécialement pour eux autres. Parce que, tu sais, celui-là que c'est direct dans ta face, c'est... Mais l'autre, c'est plus. Il faut amener cette attitude-là à être mise en lumière. Okay? Et nous aussi, on doit avoir cette attitude-là face aux perdus. Il y a des gens rebelles autour de nous de différentes façons. Il y en a qui sont. Ça paraît, les rah, 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 ils disent les grosses affaires, puis nous, quoi, ça peut être plus subtil, puis tout ça, puis où sont religieux. C'est-à-dire, tout le monde, on est. coupables devant Dieu, on doit avoir cette même attitude que Christ avait d'amener les gens à se voir tels qu'ils sont. Donc maintenant, ayant dit ces choses comme introduction, j'aimerais juste qu'on voit, comme je disais, on va développer un peu plus à l'horizontale. On part de notre texte, ça va être notre premier point. On va parler de l'abondance du cœur. Et comme je le disais, quand Jésus, au verset 34, bon, il dit, « Race de Lucifer, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ici, Jésus amène une vérité spirituelle. Écoutez bien. Si vous écoutez vos paroles, c'est ce qu'il dit là. Écoutez bien, pharisiens. Écoutez bien la foule. Si vous écoutez parler, vous allez voir ce qui est dans votre cœur. Parce que, vous savez, on le dit souvent, puis c'est dans la Bible, on ne peut pas voir, nous, au cœur de la personne. OK? Puis Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais on peut savoir ce qui est dans le cœur quand on écoute ce que la personne dit. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qui déborde de la bouche, c'est ce qu'il y a en abondance dans le cœur. C'est ce qu'il y a le plus dans le cœur. Tu sais, n'est-ce pas qu'on voit ça? Il y a des gens, là, tu vas lui parler, là, puis là, ils parlent, là, ils connaissent toutes les statistiques du sport, puis les affaires sur le tel sport, puis tout ça. Hein, pour eux autres, le sport, c'est tellement important, ça sort de leur cœur, c'est OK. Tu en as d'autres qui vont te parler de leur bobo, puis leur maladie, puis ce qui marche pas, puis tout ce qui est négatif, puis c'est dire que dans leur cœur, ce qui déborde, ce qu'il y a beaucoup dans leur cœur, c'est toutes ces choses-là. Et pourquoi c'est les meilleures personnes à qui être autour? C'est les personnes que quand tu leur parles, là, ils parlent du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a plein du Seigneur. C'est la méditation de leur cœur. C'est édifiant d'être avec des gens de même, hein? T'es là, puis waouh, OK? Puis d'ailleurs, je pense que ça l'a pas, c'est pas étrange, mes amis, que la méditation de notre cœur, je pense que ce qui fait un tournant, qu'on voit une meilleure atmosphère dans notre réunion, dans nos réunions, tout ça, c'est ça. Tu sais, maintenant, on était pas mal de « Oh, le problème, puis ce qu'on arrive, puis ce qu'on vit. » Puis on peut l'expliquer tout le temps, mais ça devrait jamais être une excuse. Même si c'est tous les problèmes, si c'est de tout ça qu'on parle, ça veut dire que c'est ça qui est dans notre cœur. Et donc, qu'on laisse le Seigneur faire son œuvre, de remplir nos cœurs de sa parole, de sa présence, de tout ce qui est de lui. Puis c'est ça qui va en déborder. Maintenant, bon, ça c'est l'explication ici sur le cœur, okay, ce qui sort de l'abondance du cœur. Regardez verset 36, elle dit « Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » On va être jugé selon nos paroles. C'est-à-dire, on va être jugé selon ce qui est sorti de l'intérieur. Le cœur, c'est le centre de notre volonté, de notre intelligence, de nos émotions. Et on va être jugé sur dans le fond, ce qui est sorti, ce qui a été dans l'abondance de tout ça. OK? Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un il a dit des bonnes choses, ben, tu sais, il veut dire tout le monde va échouer le test. On ne pourrait pas dire « Ah, mais si tu as bien parlé, tu vas être sauvé. » Tu sais, je veux dire, c'est pas ça l'idée que si tu n'as pas dit des mauvais mots et tout ça, tu vas pouvoir être sauvé. Ça n'enseigne pas un salut par les œuvres. Mais savez-vous qu'il y a des... Autant pour les sauvés que les perdus, tout le monde va être jugé face à Dieu selon, la Bible se dit selon leurs œuvres et aussi ici selon leurs paroles. Et pour les sauver, c'est un jugement qui n'affecte pas notre éternité, OK? Le tribunal de Christ. Mais pour les non-sauvés, il a dit que les non-sauvés vont aussi, même s'ils seront condamnés, même s'ils vont être perdus, ils vont quand même avoir un jugement. Il va avoir un jugement qui va donner plus ou moins de conséquences éternelles. Et ça, on a ça dans d'autres passages de la parole, mais c'est pour ça ici, quand ça dit qu'on va être jugé, ça parle autant des sauvés que des non-sauvés. Puis quand ça dit au verset 37, « Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Là, je pense qu'ici, on voit l'idée, c'est comme si tu confesses le Seigneur Jésus. OK? C'est-à-dire qu'ici, dans le verset 37, je vois vraiment une référence claire au salut. Tu sais, c'est-à-dire, encore là, c'est pas le salut par les œuvres, mais si on confesse de notre bouche, ça veut dire quoi? Si on croit dans notre cœur, ça va être dans l'abondance de notre cœur, ça va sortir. Et donc, on va être justifié par ça. Qui est-ce que tu as confessé? C'est-à-dire, qui est-ce que tu confessais comme étant ta confiance, ton, ton Seigneur pour ton salut, qui est-ce que tu as confessé comme ta justice? OK? On va être jugé, on va être justifié ou condamné à la lumière de ça. C'est très biblique, là, je veux dire. C'est pour ça que si quelqu'un dit qu'il est de Dieu puis tout ça, mais que c'est pas une réalité dans sa vie, c'est ça, ça. Tout va paraître en pleine lumière éventuellement. Donc, ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, c'est juste qu'on fasse un arrêt sur cette idée de l'abondance du cœur. Trois lieux où est-ce qu'on peut voir ça dans nos vies, ou le tester, si vous voulez, tester l'abondance de notre cœur. Tu sais, savoir trois endroits dans ma vie où est-ce que, qu'est-ce qui sort de mon cœur, comment ça peut être révélateur. D'abord, moi j'appelais ça l'abondance du cœur dans la rue, c'est-à-dire avec monsieur, madame, tout le monde, dans le lieu de travail, ok? J'ai dit dans la rue, là, mais dans le sens que, tu sais, dans le monde, ok? Et comme je l'ai dit, dans notre passage ici, Jésus parle tant à la foule, parce qu'au verset 23, on apprend que la foule était là, et qu'elle-même, elle s'exprimait. Ça nous dit, toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas le fils de David? Et il se posait, il était perplexe, on a vu ça la semaine passée. Mais aussi, on sait qu'il s'adressait directement aux pharisiens. Ce qui est important ici, comme je viens de l'expliquer, au verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Vous savez que, mais on va aller ici, on va aller dans Romains 10. Juste amener ça. Ça, ça va être par rapport plus évangélisation, peut-être ça. Quand on partage le Seigneur avec quelqu'un, juste amener quelques points qui vont nous aider là-dessus, OK? L'abondance du cœur dans la rue ou dans le monde. Les versets que vous connaissez bien, Romains 10, 9, hein? Probablement que certains ici peuvent le citer par cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, j'aime comment l'Osterval le dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, je trouve que ça rend mieux l'idée, tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Je t'ai rendu où? Verset 9, ok. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point compris. Voyez-vous le lien ici entre le cœur et la bouche? C'est comme inévitable. Si Dieu est dans ton cœur, ça va sortir de ta bouche. Et c'est pour ça que, bibliquement, on sait que il n'y a pas de disciples secrets. Il y a des gens qui sont plus timides que d'autres. Il y a des gens qui, dans les circonstances, ils ne vont pas nécessairement le crier sur tous les toits comme à d'autres, comme dans, on parle des pays musulmans, puis tout ça, où tu sais, Nicodème, Joseph d'Arimathée. Mais c'est quoi? Au bout du compte, ça finit par sortir. Puis c'est pas que, tu sais, ils ont honte de leur Seigneur, c'est que des fois, ça va juste sortir de façon différente, dans des circonstances différentes. Mais je veux qu'on voit quelque chose là-dessus par rapport à ce verset-là ces deux versets-là qu'on vient de lire. Deux grandes vérités à retenir. Ce qu'une personne confesse, c'est ce qu'elle croit. C'est ce que ça dit ici. Okay? Ce qu'une personne va confesser, puis d'ailleurs, écoutez quelqu'un qui n'est pas croyant, il va vous confesser quelque chose. J'ai eu une confession cette semaine, une madame qui a appelé, elle-même, qui m'a confessé que son crucifix était un objet de sa confiance. Qu'écouter la messe le dimanche matin, c'est un objet de sa confiance. C'est bien triste, puis j'ai dit, non, c'est Jésus est le seul qui... Mais c'était une confession, OK? Puis moi, quand que je vous parle du Seigneur, quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur, on est en train de confesser ce qu'on croit, OK? La confession, c'est la déclaration de notre croyance. C'est pour ça que c'est important d'écouter quelqu'un. Mettons qu'on parle à quelqu'un, puis ça, c'est important d'écouter ce qu'il nous dit. Parce qu'il est en train de nous révéler, il est rendu où dans son cœur. Juste à ce sujet-là, regardez le verset 8. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Savez-vous, des fois on parle à des gens du Seigneur et tout ça, puis la parole est déjà là, proche dans leur cœur. Tu sais, on l'amène la parole, puis les gens, ça va résonner avec quelque chose qu'ils ont entendu. Ça va résonner avec quelque chose qu'ils connaissent de Dieu. On leur parle de ce Dieu qui est venu, qui a pris une chair, qui est devenu homme, qui est venu accomplir la rédemption. Puis on leur présente le plan du salut, on leur présente l'œuvre de Christ. Et ça va résonner avec quelque chose dans leur cœur. Puis là, ils vont nous dire quelque chose là-dessus. Si la personne est sauvée, ça va tout le temps être dans le champ. Faut pas être surpris, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est pas sauvé, un musulman va dire, ben oui, je connais Jésus, puis je suis, mais bon, son Jésus, c'est pas Jésus de la Bible. Un catholique va dire, oh oui, puis comprenez-vous? Ça va coller avec, il va associer ça avec quelque chose qu'il connaît. La parole est dans sa bouche, dans son cœur, mais elle est pas fondée bibliquement. Il y a quelque chose que les gens vont comprendre, ah, le petit Jésus, puis à Noël, comprenez-vous? Ce qui est important, c'est d'écouter ce que la personne nous dit, qui est dans son cœur, parce que c'est là qu'on peut amener cette obligation, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, là tu vas être sauvé. » La foi biblique est exclusive. Vous savez, l'offre biblique est la plus universelle, ça dit « quiconque », hein? Car Dieu a tant aimé le monde, okay? Puis l'offre est universelle, mais la foi qui sauve est la plus exclusive. Au Seigneur Jésus, pas personne d'autre. Okay? Vous avez pas déjà entendu ça. Là, l'offre est la plus grande, la plus universelle, mais pour le recevoir, c'est le plus exclusif. C'est juste Jésus-Christ. C'est pas Jésus plus, c'est pas Jésus moins, c'est pas le Jésus que je choisis. Non, c'est celui de la Bible et c'est... Okay? Et ça... Je vous dis, c'est une chose que M. Côté m'a bien expliqué quand on parle des gens, on parle aux gens du Seigneur, c'est pas juste nous qu'il faut qu'ils parlent. Il faut qu'on prenne le temps de savoir qu'est-ce que, puis ils vont vous le dire. Ça va sortir ce qui est dans leur cœur. Puis là, on peut partir de là. Comme je dis, un musulman va dire, ah, Jésus, je crois pas vraiment qu'il est Dieu. Bon, on peut partir de là. Puis bon, le musulman, typiquement, va pas croire que Jésus et Dieu, ça se peut pas que tu sais Dieu est un seul. Il croit pas à la Trinité, il croit pas que Jésus est mort sur la croix. On part de là, puis on prêche le Seigneur Jésus. Ça c'est la première des choses, ok? Ensuite, pour le salut là, ici c'est un passage qui nous parle du salut, ok? Et ça dit si tu confesses le Seigneur Jésus, ou comme je le disais dans l'Ostervant, ça dit si tu confesses que Jésus est Seigneur. Ça, c'est bien important. Juste que vous savez, pour que vous sachiez, dans le contexte, le chapitre 10, ça nous parle d'Israël. Frère! OK, puis ça parle que plus que juste Israël, mais dans le contexte ici, ça dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ils parlent d'Israël, puis ils parlent qu'ils ont mis leur justice avant. OK, bon. Donc, c'est pas tout à fait étranger à la réalité des Juifs qui est amené ici. Et ça nous aide à comprendre, parce que si on comprend ça dans ce contexte historique-là, il y a une signification. Ces gens-là, la Bible nous dit, je leur rends témoignage, verset 2, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Okay? Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Fait que c'est soit la loi, mes œuvres, ma justice, ou soit la foi, l'œuvre de Christ, sa justice. C'est soit un, c'est soit l'autre. OK? Et donc, quand on dit celui qui confesse Jésus est Seigneur, c'est quelqu'un qui est arrivé à ce point-là de dire c'est plus moi Seigneur, c'est plus moi qui colle les shots. C'est moi, je fais ça de même, puis moi, je crois de même. Parce qu'écoutez, quelqu'un là, qui ne croit pas, c'est lui le Seigneur de sa vie, c'est lui qui dit moi, je veux ça de même. Ah, toi, tu crois de même, mais moi, je. Non. Quelqu'un qui confesse que Jésus est Seigneur et se soumet à ce que lui est, à ce que lui déclare être, et c'est ça. Tu sais, le fameux débat, le Lordship Salvation, ou Easy Believism, là, c'est un peu à ça que je pointe. L'idée, c'est lui qui fixe les règles. Il est Seigneur, c'est lui qui dit comment qu'on est sauvé. C'est lui comment qui dit comment qu'on s'approche de Dieu, n'est-ce pas? OK? T'sais, on peut pas changer ça, là. C'est non négociable. Il y a de salut en aucun autre, OK? Et les gens religieux ou non, qu'on voit dans la rue, au travail, puis tout ça, ils ont une croyance dans le cœur, ils ont quelque chose qu'ils pensent de Jésus-Christ. Ils doivent changer cette conception-là qui est, s'ils sont pas sauvés, elle est fausse, OK? Elle est fausse. Et c'est pour cette raison-là que c'est important de comprendre qu'on ne fait pas juste recevoir Jésus comme mon sauveur, mais comme Seigneur. C'est lui qui dit comment qu'on s'approche de lui. Comprenez-vous? L'idée, là, c'est pas que je vais tout mettre ma vie en règle, puis je vais tout être, mais il est Seigneur. C'est lui qui dit comment on est sauvé. C'est pas moi qui va dire, Tu sais, parce que souvent, typique, par exemple, en Afrique, ah ben oui, Jésus, c'est super, ou en Inde, des pays comme ça, où est-ce que c'est beaucoup polythéiste, puis ils ont toutes sortes de croyances, puis il y a un melting pot de croyances. Ah oui, Jésus, c'est super, mais moi, tu sais, je vais le prendre même avec les autres. OK? Non, non, ça, là, tu fais pas de Jésus Seigneur, c'est encore toi, Seigneur, là. Parce que tu prends Jésus-là, puis tu rajoutes, tu comprends? Si tu t'acceptes, fait que si vous voulez avoir un aide pour équilibrer cette tension-là, souvent, c'est deux vérités de la parole qui souvent sont amenées trop loin. Moi, je pense que, tu sais, je ne suis pas calviniste, je ne suis pas arménien, mais je ne suis pas easy believism, puis je ne suis pas non plus Lordship Salvation quand c'est pris dans le sens extrême. Mais juste comprendre que si on confesse que Jésus est Seigneur, c'est ça, c'est les points de la rébellion qui disent « Non, moi, je vais être sauvé de même, ou moi, je dis ça de même, tu sais, moi, je l'ai entendu souvent. Ah, mais là, s'il faut croire comme toi. Non, c'est pas comme moi, c'est comme lui le dit. C'est lui, Seigneur. » C'est ça, être sauvé. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est Dieu m'approche de toi à ta façon. Et il n'y en a une seule. C'est par le sang de Christ, c'est par l'œuvre du calvaire. Et Dieu, c'est lui qui a établi les règles. Donc, prenez le temps d'écouter ça. Quand vous parlez à quelqu'un, amenez ça au point. Tu es en train de me confesser quelque chose. Il y a des bons points, mais tu ne confesses pas le Seigneur Jésus. C'est encore toi qui colle les shots. Comprenez-vous ce que je vous amène? Il y a quelque chose, je pense, qui nous aide à comprendre avec ce concept-là. T'sais. Je pense que ça ne serait pas complet de juste accepter « Ah, Jésus comme mon sauveur ». Ça serait juste le côté « easy believism ». Puis l'autre côté, juste comme Seigneur, comme là, si tu veux Jésus dans ta vie, il faut tout mettre ta vie en règle, puis il faut que... Ça serait par les œufs, ça ne serait pas... OK, on reçoit Jésus comme Seigneur et sauveur, et l'idée, c'est que, justement, on le laisse lui être qui il est. On se soumet à lui. C'est lui qui a dit comment on s'approche de lui. C'est lui qui a établi le salut. C'est lui qui a accompli l'œuvre. Donc, c'est ça. C'est plus que juste des mots. C'est la soumission, l'attitude de soumission qu'il y a derrière ces mots. OK? Donc, si on présente le salut à quelqu'un puis qu'il dit « Oui, Dieu, oui, ce que tu dis, mais... » S'il y a un « mais », probablement que c'est un « mais » qui montre qu'il n'y a pas la soumission simple au fait que Jésus est Seigneur, que c'est lui qui dit comment qu'on s'approche de lui par la foi. Okay? C'est ça l'idée de la repentance, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. C'est ça, confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le « oui, mais » il part. Okay? Pour vous le dire autrement, quand on dit « oui, mais », on n'est pas rendu à dire « ah, oui ». Quand on arrive à la repentance, qu'on voit, qu'on reconnaît que Jésus est Seigneur, que c'est lui le prince du salut, que c'est lui, là on ne dit plus oui, mais on dit « ah oui! » Voyez-vous, juste peut-être cette expérience, ça peut aider à comprendre la différence entre les deux. Quand quelqu'un arrive et qu'il est confronté à l'Évangile et qu'il dit « ah oui! » là, il reconnaît Jésus comme Seigneur. Comprenez-vous? Il a pas tout mis sa vie en règle, il n'est pas rendu parfait, mais il n'a pas juste non plus répété une prière qui ne veut rien dire. Ah oui! Là, il y a cette... c'est pour ça que je vous dis, il y a une attitude qui va avec ça. Évidemment, ce qui nous aide aussi, c'est la conviction du Saint-Esprit. Souvent, quand le Saint-Esprit t'envahit sur quelqu'un et qu'on est présent à l'Évangile, mon ami, la résistance, pouf, ça prend le bord. D'ailleurs, des fois, on a parlé à quelqu'un tellement longtemps, résistance, pour amener le Saint-Esprit adoucit le cœur, puis le oui, mais qu'on entendait depuis si longtemps, ça devient ah oui! Puis là, la personne est sauvée. OK? L'abondance du cœur dans la rue, dans les milieux qu'on peut rencontrer des non-sauvés, mais aussi dans l'Église. L'abondance du cœur dans l'Église. On va aller dans Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 12. Colossiens 3, 12. On peut lire dans Colossiens 3:12 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Toutes ces choses qu'on vient de voir ici, ce sont l'expression de ce qui est dans l'abondance, ce qui est en abondance dans le cœur d'une église comme la nôtre. Ce sont les expressions de ça. Et ça va se révéler sur nos paroles, par nos paroles, ok? Ce qui est en abondance dans nos cœurs, ça va se révéler par nos paroles dans une église comme la nôtre. Par exemple, si ça dit au verset 12, ça dit ainsi donc comme des élus de Dieu, revêtez-vous. Puis là, ça nous parle de sentiments de compassion, ok? Ça, c'est une attitude, c'est des choses. Si dans notre cœur on a cette compassion, cette bonté, cette humilité, cette douceur, cette patience de Christ, savez-vous quoi? Ça va paraître, ça va sortir. Il y a quelque chose de notre attitude qui va comme ça se déverser sur les autres. OK? Et comment c'est important? Comment c'est bénéfique? Savez-vous, je pense que ça, juste verset-là, ça fait une différence entre une église morte et une église vivante. Une église grise et une église avec toutes les couleurs de les couleurs de la beauté de Christ. Parce que tout ça, là, ça dit revêtez-vous de ces choses-là, là, compassion, bonté, humilité, douceur, patience. C'est le caractère de Christ. Okay? C'est la vie de Christ dans quelqu'un. Et donc, ça, c'est une première chose. Savez-vous quoi aussi? Il va y avoir un support. Supportez-vous les uns les autres. Puis, savez-vous quoi? On a sujet de se plaindre. Okay? Puis c'est pour ça aussi que on se pardonne les uns les autres. Ça encore, je veux dire, si on voit de l'animosité puis des querelles puis tout ça, qu'est-ce que ça montre dans le cœur? Une église comme la nôtre, c'est un endroit où est-ce qu'il doit y avoir du support, du pardon. Puis on a besoin de se pardonner parce que, je veux dire, on est tous des humains. Puis bon, si on est une église plus superficielle, on peut garder ça juste dans une famille. Mais si on veut être vrai comme église, ça va ressortir cette affaire-là. Si on est vraiment une famille comme une famille de Dieu, mais ça va sortir. Mais si dans notre cœur, il y a les choses du verset 12, Dieu va être glorifié avec le support mutuel, le pardon mutuel et cet amour de Christ entre nous autres. C'est pour ça que ça dit encore, ça utilise encore le mot « revêtez-vous » au verset 14, mais par-dessus ces choses, « revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Encore là, c'est des choses vraiment que c'est une disposition du cœur qui, face aux autres, va vraiment nous unir. Quand ça parle ici du lien, de l'amour qui est le lien de la perfection, the bond, c'est comme la colle. C'est, tu sais, si on veut vraiment être unis dans l'esprit, ça prend l'amour. Puis c'est toujours l'amour dans la vérité, là, ça va toujours ensemble. Et ça va vraiment faire la différence pour une église, encore là, qui est vivante ou morte, qui grandit ou stagne ou, pire, régresse. Donc, se revêtir de cet amour, la reconnaissance, la paix de Christ et tout ça, puis là, ça dit, et soyez reconnaissants. Juste là-dessus, je pense qu'on a été témoins dernièrement. Puis, ma prière, c'est que Dieu nous qu'on s'endurcisse pas le cœur par rapport à ça. D'arriver au point où qu'on est reconnaissant de la situation dans laquelle on est. Donc, qu'on est reconnaissant de ce que Dieu fait. Ça a été tout qu'un défi en 2020, hein? Et mon ami, moi, j'ai de la misère avec la reconnaissance cette année. J'ai murmuré dans mon cœur, je pense, comme j'ai jamais murmuré avant. Puis Dieu m'a pas mal, on dit en québécois, il m'a varlopé avec ça. Combien de fois c'est sorti dans des messages? Puis rappelez-vous au début, tu sais, la souveraineté de Dieu quand on voyait ça. Mon ami, Dieu, j'ai de la misère à accepter ce qu'il fait. Comment ça, Dieu, tu fais ça? Puis là, Dieu me ramenait tout le temps, bien, parce que je suis Dieu, puis j'ai le droit de faire ce que je veux. Puis Dieu veut nous amener juste au point de dire, Dieu, merci, t'es Dieu, puis t'as décidé ça de même. Puis je te loue, puis je te remercie pour ça. Il y a quelque chose de précieux là-dedans, puis il y a quelque chose dans une église, quand on
on le vit, là, quand c'est pas juste des beaux mots qu'on dit, quand c'est ce qui sort en abondance de notre cœur, oh mes amis, là il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de merveilleux. Puis je pense que dans, moi je trouve, je sais pas pour vous, mais le mois de novembre, là, ça a vraiment béni mon cœur. Je pense que ça l'a à jouer avec ça. On est arrivé au point où on a arrêté de chialer, puis on a commencé à être reconnaissant.
Je pense que c'est pas un hasard, c'est une attitude. C'est cultiver ce qui est dans notre cœur. Et justement, cultiver ce qui est dans notre cœur au verset 16, la parole de Dieu, on en parlait tantôt. Si on a plein de Dieu dans notre cœur, si on s'entretient, c'est-à-dire que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, puis là, on s'instruit, on s'exhorte les uns les autres avec toutes des choses qu'on a dans la parole. C'est-à-dire des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. En plus, c'est de façon chantée, la puissance de la musique, hein? Et ça aussi, c'est puissant. C'est très puissant. Et quand on a des actions de grâce, verset 17. Je ne veux pas développer plus que ça, ces choses-là qui sont self-explanatory sur l'abondance qui est dans le cœur. Mes amis, une église qui vit ça, oh mes amis, Dieu fait un œuvre dans les cœurs. Il y a quelque chose qui se passe de réel, de Christ. Et c'est beau. Je ne veux pas aller plus en détail par rapport à ça, sauf poser des questions. Qu'est-ce qui caractérise nos discours? Qu'est-ce qui caractérise nos paroles? Est-ce que c'est ce qui est au verset 5? Faites mourir dans vos corps, dans vos membres, ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Est-ce que c'est ce genre de choses-là? Ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on a vu dans les versets qu'on a lus? On doit juste se poser des questions. Littéralement, je pense que ça change l'atmosphère d'une famille, d'une église. Puis le monde en ce moment, là, si on dit que les gens ont besoin de voir, c'est ça. Parce que ça, c'est Christ en nous. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Savez-vous quoi? C'est ça que Dieu va utiliser aussi pour avoir un impact, pour que les gens puissent considérer Christ. Parce qu'on peut entendre partout parler de toutes sortes d'affaires, mais il y a juste les chrétiens qui ont Christ dans leur cœur et qui débordent, qui vont faire entendre aux autres ce qu'il y a nulle part ailleurs. Jésus-Christ et lui seul. Wow! Ça, mes amis, ça a un impact sur le monde. Et ça m'amène au troisième point que je veux qu'on regarde ce soir sur l'abondance du cœur, non seulement dans la rue, dans l'église, on arrive encore plus intime dans la famille. Et on a ça dans verset 18 à 21. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose ici. Bon, ça c'est la famille. C'est l'idéal de Dieu pour la famille. Chacun dans son rôle. Homme, femme, enfant. Mari, femme. Mère, père. Dans une famille, la réponse verbale à ce qu'on vit. Dans une famille, on vit toutes sortes de choses. On vit des tensions, on vit des joies, on vit des déceptions, on vit des... OK? Tout ce qui se vit, on vit ça dans une famille. Parce qu'on est tellement souvent ensemble, n'est-ce pas? C'est un lieu de relations intenses. Je veux dire... Et unique. Je veux dire, on met une barrière au travail où est-ce qu'on ne va pas aussi loin. Parce que c'est normal, il y a une protection là-dedans. Je veux dire, on ne veut pas être aussi intime, OK? Pas parce que, tu sais, ben, parce que c'est fait comme ça. La chose qui se rapproche le plus d'une famille, c'est la famille de Dieu, c'est l'Église. Mais il y a quelque chose de vraiment unique. Tu sais, on n'est pas tous les jours ensemble en Église, là. Mais une famille, on l'est. Et la réponse verbale que nos cœurs vont donner à toutes ces choses-là qu'on va arriver va déterminer l'état de la famille, l'atmosphère de la famille. Le discours familial dévoile le cœur familial. Ça donne l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère dans nos familles? Les cris, le chiolage, la discorde, ou la paix, les chants, les réjouissances. C'est quand la fois vous avez ri en famille, faites les nonos un peu. C'est bon ça, des fois, tu sais, juste que ça soit plus léger. C'est quand la fois qu'on a eu des discussions sérieuses. Il y a un temps pour toutes choses. Et ces choses-là, mes amis, c'est déterminant dans une famille. Puis, en passant dans une famille, on sait que le discours, ce qui sort, c'est révélateur, mais c'est pas là-dessus qu'on travaille. C'est pas ça le centre de notre attention. La Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ce qui sort de la bouche, c'est juste un indicateur. Si on voit un problème, est-ce qu'il sort de la bouche avec... Ça nous montre qu'il y a quelque chose dans le cœur qui ne marche pas. Ça l'expose, ce qui est en abondance dans le cœur. OK? Et donc, encore là, je pense qu'il faut pas se gêner. Il faut être capable de nommer un chat un chat. Il faut le faire avec la bonne attitude. Mais quand il y a des choses pas belles qui sortent, il faut s'adresser à ce que ça a, ça révèle sur le cœur. Que ça soit dans les rôles ici, la femme, le mari, les enfants, nous bronchons tous de différentes manières. On sort tout ce qui est dans notre cœur, ce qui ne peut pas marcher. Et une famille qui s'aime, qui s'aide, je n'ai déjà parlé, hein? On ne veut pas regarder les autres de haut et dire « toi, tu as les problèmes, puis moi, j'ai les solutions ». On s'entraide. On a tous des problèmes, puis tu sais, le Seigneur est la solution, puis le Seigneur, des fois, il nous donne des choses qui vont aider les autres. On le partage en toute humilité, pas parce qu'on a tout « under our belt », là, que c'est tout « oh, moi, j'ai tout compris ». Non, dans l'humilité, on regarde les autres comme étant au-dessus de nous autres, puis on s'entraide les uns les autres. Juste là-dessus, sur l'abondance du cœur dans la famille, je pense que s'il y a une humilité réelle, on va vouloir aider les autres avec ce qui lutte. Je n'ai déjà parlé, mais tu sais, quand on a une famille, c'est, on les connaît nos défauts, on les connaît nos tendances. On doit se revêtir de douceur puis d'humilité là-dedans. Puis, je veux dire, on s'entraide. On peut décider de se tirer des tomates, mais je veux dire, ça va juste être pire. Donc, c'est ça. Sur l'abondance du cœur ici dans la famille. Puis si on met Christ au centre, si Christ devient notre joie, notre unité, tantôt c'est toi qui priais là-dessus, hein? Le peuple de Dieu, c'est quand ils reviennent à l'unité puis ensemble, c'est quand ils reviennent à Dieu. Pas compliqué, hein? C'est revenir à Dieu. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête, c'est revenir à la même place, à la même personne, à celui qui est la solution à tous les problèmes. Donc, au lieu de chercher à tout de combattre les mauvaises tendances puis les choses qui ne peuvent pas marcher, puis à combattre à la sueur de son front, allons à celui qui est plein de grâce, allons à celui qui restaure. Et laissons-le combattre, laissons-le être ce qu'il est, notre victoire. Je termine avec ça. Dans tout ce qu'on a lu, autant que ce soit Jésus dans Matthieu, autant que ce soit ici, dans Colossiens. Vous savez, sur l'abondance du cœur et tout ça, il y a un élément, il y a une révélation, la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais je veux terminer avec ce point-là. La bouche parle de l'abondance du cœur, puis la majorité du temps, ben non, pas la majorité, en tout cas, souvent, ça révèle des affaires pas belles. OK? Ça va révéler des choses, puis ça l'amène, puis Jésus, c'est ce qu'il a fait, ça l'amène la nécessité de confrontation. Je vais terminer avec ce mot-là, le mot confrontation. Jésus a confronté ici les pharisiens et la foule. OK? Puis Jésus confrontait tout le temps dans le but de restaurer, dans le but d'amener à la repentance, pour le bien de l'autre. Et c'est ce que je voudrais juste qu'on termine. Lorsqu'on parle d'abondance du cœur, puis tu sais, comme même avec en ce moment ce qu'on vit, la crise révèle bien des affaires, n'est-ce pas? Est-ce que c'est tout beau? En fait, beaucoup, tantôt je disais majorité, je ne sais pas si je suis plus pessimiste, d'habitude je suis optimiste, là, mais je pense qu'en soit réaliste, je pense que c'est plus négatif. Okay? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis souvent, on a tendance, hein, on est bon là-dedans, on confronte les autres, tous ceux qui ont des problèmes, puis nous autres, on se donne un break. Je pense pas que c'est la bonne attitude qu'on doit avoir. Face à l'abondance du cœur, face à ce que Dieu révèle dans les circonstances, dans les vies, dans nos vies avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On doit confronter, mais ce qui va faire la différence, c'est comment on confronte. Puis, comme avec justement, là, tu sais, toutes les choses qu'on vit et tout ça, je pense qu'il faut juste voir l'opportunité de Dieu dans sa bonté. Oui, il révèle les choses. Oui, il fait ressortir ce qui est dans le cœur. La réalité des cœurs ressort beaucoup. Puis, le plus important pour ceux, tu sais, dire, on peut pas régler les problèmes de tout le monde puis être le sauveur de personne. Peut-être que des fois, on a une part de confrontation, mais qu'on laisse le Seigneur confronter la personne. Tu sais, il y a des personnes à qui j'ai parlé, des fois, je me dis, ouais, je pense que là, il va juste falloir que je laisse le Seigneur s'occuper de ça. Puis, des fois, c'est la meilleure chose à faire. Laisser le Seigneur convaincre puis confronter. Mais quand c'est notre part, quand on sait que Dieu a nous, de grâce, ne soyons pas quelqu'un qui va aggraver les choses, qui va irriter. On l'a vu ici, ça dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il faut qu'on fasse attention en ce moment. On est dans un temps où est-ce que beaucoup de problèmes sortent. Puis la tendance humaine, des fois, c'est de confronter. Puis on devient irritant. Puis c'est quoi que ça arrive quand on est irrité, puis irrité, puis irrité. Puis vous regarderez ça ici dans le contexte familial. Ça, mettons, là, un père, là, comment on appelle ça, dans un père qui est tout le temps choqué, qui n'est jamais content. Là. On a un nom pour ça. Là. En tout cas, pas colérique. En tout cas, il y a un nom là, qu'on donne à ça, là, genre de père très sévère puis strict, là, autoritaire. Là. Je cherche un mot. Non, c'est un... En tout cas, c'est pas un terme biblique, donc c'est pas grave. Là. Mais, dans le sens, il n'est jamais content, puis je pourrais jamais y plaire, ça va jamais arriver que les choses vont aller mieux. Fait que là, on est arrivé au point, t'es découragé. OK? On a ça ici. Dans le temps qu'on vit, ça a sorti un peu ce matin. Comme là, on prend une décision, on veut prendre certaines directions puis dire on veut faire confiance au Seigneur. Il faut qu'on garde la bonne attitude. Je veux dire, les autres qui ne sont pas toujours comme nous autres, il y a un temps pour confronter, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour prier, mais certainement, on ne veut pas être de ceux qui irritent pour finir par décourager. Comprenez-vous? Tu sais, ils sentent des affaires pas belle, ben on a un rôle biblique de confronter et tout ça. Mais de grâce, ne soyons pas ceux qui irritent au point de décourager, spécialement en ce moment. Là, on est fragile, là, on est fragilisé dans un temps comme ça. C'est pas le temps de rempirer les choses avec l'attitude que nous, on pourrait avoir, avec ce qu'on laisse sortir de notre cœur, notre propre cœur mauvais pour, au lieu d'être une bénédiction pour les autres, devenir... une pierre d'achoppement. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci que tu connais les cœurs, toi, ultimement, tu les connais parfaitement. Et Seigneur, on le voit, ça fait longtemps, ça a toujours été comme ça, mais on voit spécialement en ce moment beaucoup de choses qui sortent. Et oui, la bouche parle de l'abondance du cœur et on en est témoin. Seigneur, on veut répondre favorablement. On veut répondre à toi là-dedans. On veut répondre en se confiant en toi. Pas en essayant de prendre les choses en main, puis régler tout le monde, puis fixer tout le monde. Tu ne nous as jamais appelé à ça. On doit tous marcher par la foi. On doit te faire confiance. Alors, Seigneur, puisses-tu sonder chacun de nos cœurs? Et Seigneur, que tu puisses, dans ces temps dans lesquels tu nous as mis, dans lesquels tu as choisi, Seigneur, que tu te glorifies, Seigneur, que tu sois exalté, que Christ soit manifesté au milieu de nous autres. Quel temps inouï! Où est-ce que tu as une occasion merveilleuse, Seigneur, de manifester ta gloire, ta bonté sur cette toile de fond ténébreuse et de méchanceté, Seigneur. Tu veux montrer comment tu es bon, comment tu es glorieux. Merci que tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Merci pour ton œuvre, que tu veux nous amener à une réelle reconnaissance du cœur qui sort sur nos bouches de façon réelle et authentique. Merci, Seigneur, pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen.